Au bord du bassin de Marenne, Saint-Just est un autre témoin privilégié de l'histoire du pays. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le rôle de refuge qu'a connu son église tout au long des âges. Lieu de passage obligé, l'église accueillait les voyageurs et la population en temps de trouble. Riche de l'exploitation du sel, la commune sera aussi une terre d'asile pour les protestants et les idées de la réforme.
Je suppose que l'église de Saint-Just faisait partie de la donation faite à l'abbaye aux Dames en 1047.
C'est même l'abbaye qui a fait rebâtir l'église au XIIe siècle, afin qu'elle puisse accueillir une plus grande population. C'est alors une église de style roman, munie de défenses. En cas d'alerte, les habitants pouvaient s'installer en nombre avec des vivres.
Eh oui, la région comporte des richesses convoitées. Une église fortifiée est construite à un endroit stratégique, symbole des pouvoirs de l'église et du seigneur. Une logique que l'on retrouve maintes fois dans l'histoire.
C'est particulièrement vrai pendant la guerre de Cent Ans, où la Saintonge est très disputée entre Français et Anglais. La violence et l'insécurité sont alors grandes.
À tel point qu'au XVe siècle, l'église est finalement en ruine. Elle va être reconstruite sur un nouveau plan, dans un style gothique cette fois. Mais elle conserve son rôle de refuge et de défense. Les combles y sont vastes et permettent toujours d'accueillir les habitants.
Le signe de ce rôle défensif, c'est la présence d'une échauguette, une petite tour de défense qui défend la porte extérieure de l'escalier menant aux combles. Il faut dire que pendant les guerres de religion, l'église devient une citadelle sur le chemin de Brouage.
Oui, on parle même du pas de Saint-Just, comme du pas de Marenne ou de Saint-Sornin. Ce sont des passages indispensables. L'insécurité et la violence règnent jusqu'au milieu du XVe siècle. Et plus tard, l'église sera âprement disputée par les armées catholiques et protestantes. En bref, elle est en permanence sous la garde des soldats.
On retrouve même des graffitis gravés par les soldats dans la pierre. Des noms, des dates, le dessin d'un bateau. On trouve même encore des impacts de tir à l'arquebuse dans la façade.
Voyez-vous, Marine, les convoitises sur le pays, en plus de son emplacement stratégique, s'expliquent par la richesse apportée par la culture du sel.
L'or blanc, qui paraissait une ressource inépuisable et que l'on commercialisait alors dans toute l'Europe du Nord.
Il y a aussi la présence de ces nombreux ports et chenaux. On charge le sel sur de petites embarcations qui remontent ensuite l'intérieur du marais pour rejoindre la Seudre. Là, le sel est chargé sur les navires de haute mer avant qu'ils ne rejoignent la Hollande ou les Flandres.
Il paraît qu'à l'époque, la région est loin d'être fréquentable. Le morcellement du pays en petites îles en fait le refuge idéal pour les pirates, les pilleurs d'épaves et autres malfaiteurs. Mais la culture du sel représente quand même une immense richesse.
Au point d'être une manne économique pour le pouvoir de l'Église et le pouvoir royal. L'abbaye aux Dames tire sa richesse des taxes, des dîmes, des droits de passage, et le pouvoir royal renfloue ses caisses à l'aide de l'impôt sur la gabelle qui taxe le sel. Cet impôt va provoquer deux révoltes au XVIe siècle.
Est-ce que tout ça aurait un rapport avec le succès des idées de la réforme ?
Vous tenez là deux éléments clés. L'esprit contestataire des hommes de la région qui font preuve d'insoumission contre le pouvoir et la géographie du pays éclatée qui est faite de multiples îles où il est facile de trouver refuge. Les moines convertis, qu'on appelle les moines prêcheurs, vont trouver dans la région une terre d'asile.
À Saint-Just, c'est Philippe Barat qui est le premier à introduire les idées luthériennes. Il conserve la robe de moine catholique pour ne pas éveiller les soupçons, mais prêche dans les églises, fait la classe aux enfants et introduit les idées du Nouveau Testament, traduit en français s'il vous plaît, auprès des familles.
Et la population apprécie ces nouveaux moines. Ils représentent un idéal de simplicité et de dévouement, un rôle que ne remplit plus alors le clergé catholique. On dit même qu'ils n'hésitèrent pas à donner quelques coups de main dans les marais.
Et puis surtout, la réforme prône l'abandon des œuvres pour obtenir la grâce de Dieu. Autrement dit, elle propose la pauvreté de l'Église et un Dieu en quelque sorte gratuit. Voilà qui aide aussi à comprendre le succès de ses idées.
Oui, enfin, toujours est-il que le secteur de Marenne va être très vite à deux tiers protestants. Mais le XVIIe siècle sera l'époque de la reconquête catholique. Avec la révocation de l'édit de Nantes, on assiste à bon nombre de reconversions, le plus souvent forcées. Les persécutions augmentent, la violence aussi, et beaucoup préfèrent partir en exil. Saint-Just perd alors bien des hommes et avec eux des compétences, des capitaux. Peu à peu, les marais seront laissés à l'abandon. Le dynamisme économique ne reviendra qu'au XIXe, mais c'est encore une autre histoire.